Radio Okapi.
Le journal Babel Pongo Massimango. Bonjour. À la une, la sonnette d'alarme des Nations Unies pour la RDC où plus de 2 millions d'enfants risquent de mourir de malnutrition sans l'aide nécessaire. Une situation liée à l'instabilité et au conflit dans le pays. Du côté des politiques, on affûte les armes pour les élections de décembre. Dans la majorité comme dans l'opposition, des partis politiques se regroupent et font des alliances. Les derniers cas remontent à ce week-end. La problématique de l'usage de la machine à voter au cours des prochains scrutins en RDC est dans les questions dans le dossier que nous vous proposerons dans la seconde partie de ce journal. Plus de 2 millions d'enfants risquent de mourir de malnutrition aiguë sévère en République démocratique du Congo s'ils ne reçoivent l'aide dont ils ont besoin. La sonnette d'alarme est tirée par les Nations Unies lors d'un point de presse le week-end à Genève. Des détails à ce sujet avec Blaise Makassi.
Nous avons une grande responsabilité par rapport à la situation en République démocratique du Congo et il est maintenant temps de maintenir le cap, a déclaré le porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, Jens Lerke, lors d'un point de presse à Genève. Parmi les 2 millions d'enfants menacés de famine, près de 300 000 enfants sont dans la région du Kasaï, a indiqué de son côté Bettina Lurcher, la porte-parole du Programme alimentaire mondial. Des années d'instabilité et de conflits en République démocratique du Congo ont alimenté l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde. À ce jour, près de 4,5 millions de personnes ont été déplacées, faisant de la RDC le pays africain le plus touché par des déplacements internes, a précisé M. Lurcher. En début d'année, la communauté humanitaire de la RDC a lancé un appel de fonds record de 1,68 milliard de dollars afin de répondre aux besoins de près de 10,5 millions de personnes.
Et c'est dans ce contexte de grave crise humanitaire que le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence est arrivé hier à Kinshasa. Durant ce séjour de 3 jours, Marc Lowcock va rencontrer les autorités congolaises dans la capitale. Il se rendra également à Kalemie, dans le Tanganyika, joint par Suzanne Zobodra. Yvan Edoumou, porte-parole de OCHA en RDC, apporte d'autres précisions sur cette visite.
C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la grave crise humanitaire que le pays traverse, entendre auprès des populations qui sont affectées par la crise, voir aussi constater le travail qui est fait par les acteurs humanitaires, à travers que ce soit des acteurs humanitaires du côté des agences onusiennes ou du côté des ONG, et aussi échanger avec les autorités congolaises qui ont la responsabilité première de la protection des civils à travers le pays.
Est-ce que ce déplacement du numéro 1 de OCHA peut faire espérer un meilleur plaidoyer pour la RDC lors de la conférence des donateurs en avril?
Ben absolument, absolument. Le but de cette visite aussi est de mettre les derniers points sur les i, si je peux me permettre de parler comme ça, sur cette conférence qui sera effectivement la première conférence des donateurs pour la crise humanitaire en RDC.
Cela fait une année, jour pour jour, que deux experts des Nations Unies, nos confrères Michael Sharp et Zaida Catalan, ont été assassinés dans la province du Kasaï central, située au cours de l'insurrection de Kamounansapo. Leurs 4 accompagnateurs sont toujours portés disparus. Le procès ouvert le 5 juin 2017. Les audiences ont été suspendues le 22 octobre. Le secrétaire général des Nations Unies avait nommé un comité d'enquête, puis un procureur, ainsi que des experts pour suivre la procédure de justice ouverte par la justice congolaise. Nous allons y revenir au cours de notre édition, nos éditions d'information de la journée. Processus électoral en République démocratique du Congo. Les partis politiques affûtent déjà leurs armes pour les élections prévues en décembre 2018 selon le calendrier de la CENI. De plus en plus, ces partis se regroupent et font des alliances, que ce soit du côté de la majorité présidentielle que de l'opposition politique. Paul Matin nous donne ici quelques illustrations.
Du côté de l'opposition, les partis politiques membres de l'alternance pour la République AR et ceux du G7 se sont retrouvés en conclave dit des forces politiques du changement en Afrique du Sud ce samedi 10 mars. Ces deux plateformes de l'opposition politique de la RDC soutiennent la candidature de Moïse Katumbi-Chapwe à la présidentielle. Ils vont porter sa vision et son programme, mais ce dernier, rappelons-le, est en exil depuis 2015. Du côté de l'UDPS, allié du G7 et de l'AR, son porte-parole Augustin Kabuya précise que le conclave ne concerne que ces deux plateformes. L'UDPS a déjà son candidat, c'est Félix Tshisekedi. Il ajoute que le moment venu, l'UDPS dira avec qui il fera alliance. On note également un rapprochement entre l'IPALU et le MLC. Ces deux partis l'ont officialisé devant la presse le vendredi 9 mars dernier. Un rapprochement concernant notamment la nécessité du respect du calendrier électoral publié par la CENI. Pour la majorité présidentielle, ici à Kinshasa, 30 partis politiques ont fait leur adhésion à la famille politique de Joseph Kabila ce samedi 10 mars devant Obemi Nakou, secrétaire général de l'AMP. Cette plateforme n'a pas encore dévoilé le nom de son candidat à la présidentielle.
Prenons le fleuve Congo à présent. Le baliseur Kauka de la régie de voie fluviale RVF en provenance de Kinshasa est arrivé jeudi à Kisangani. Cette mission bathymétrique consiste à effectuer des études hydrographiques sur le fleuve Congo de Kinshasa à Kisangani et soit une distance d'environ 1700 km, cela en vue de recueillir de nouvelles données qui serviront à l'édition d'une nouvelle carte de navigation. La dernière version générée en 1915 ne reflétant plus aujourd'hui les réalités du terrain. Ce projet de la RVF est financé par l'Union européenne. Godlieve Omondo nous explique.
Ce baliseur parti de Kinshasa le 5 décembre 2017 est arrivé à Kisangani le 9 mars 2018, soit après environ 3 mois de parcours. Selon Emmanuel Makwala, commandant baliseur Kauka, plus de 1600 signaux de rive et flottants ont été placés pour identifier d'éventuels obstacles, notamment des îlots créés par des bancs de roches et de sable en formation.
Le résultat de la mission aidera à faire l'édition des nouvelles cartes de navigation. Nous prévenons les écueils sur le fleuve Congo. C'est la sécurité des engins flottants. Nous sommes là pour installer les signalisations. Dès qu'il verra la signalisation flottante, il sera là, non, il ne faut pas s'y approcher là.
Le chef d'antenne de la SCPT, Exonatra Kisangani, apprécie à juste titre cette mission. Pour Paul Noël Mukasa, l'actualisation de ces données aidera à assurer la sécurité des navigants et aussi la limitation des chargements selon les engins.
Nous avons des difficultés par rapport aux données que nous avons pour limiter nos charges. Nous avons des gros pousseurs qui peuvent vous tracter comme ça 4000 tonnes. Quand le mouillage est faible, il ne saura plus prendre 4000 tonnes.
Sachez que ce projet prévoit les levées bathymétriques du réseau des voies navigables de la RDC avec une longueur de plus de 16 000 km. Kisangani, Godlieve Omondo, Radio Okapi.
Et parlons à présent de ce projet qui est revenu dans l'actualité concernant la déviation des eaux de la rivière Obangui pour ravitailler le lac Tchad qui s'assèche. Ce projet qui est notamment revenu dans les recommandations de la conférence internationale tenue la semaine dernière à Paris sur cette question. Dans le nord Obangui, la société civile s'y oppose fermement et cette prise de position a été exprimée le week-end par cette plateforme au nom de la population. Pour cette société civile, aucune décision ne peut être prise sur la déviation des eaux de la rivière Obangui sans l'accord de la population riveraine de ce cours d'eau. Les autorités provinciales entendent d'ailleurs discuter de la question avec le gouvernement central. Plus de détails avec Dominique Colombi.
L'assèchement progressif du lac Tchad est devenu un problème qui concerne non seulement les pays riverains de ces lacs, mais aussi les pays de la région, ce qui réveille les initiateurs du projet de déviation des eaux des cours d'eau de la région, notamment celle de la rivière Ubangi de la RDC vers le lac Tchad. Pour Taylor Taïma, coordonnateur de la société civile Force Vive du Nord Ubangi, la déviation des eaux de l'Ubangi vers le Tchad, soutient-il, aura des conséquences sur les écosystèmes du nord et sud de Bangui et sur la population dont la pêche et l'agriculture dépendent de cette rivière. Voilà pourquoi la société civile du nord au Bangui tire la sonnette d'alarme pour préserver la survie de la population riveraine de l'Ubangui qui bénéficie à ces jours des richesses halieutiques et forestières de ces cours d'eau. L'autorité provinciale du Nord-Ubangui dit ne pas être encore saisie officiellement de ce projet. Pour les vice-gouverneurs contactés, les autorités provinciales entendent discuter de la question avec les pouvoirs centrales les moments venus. Mbandaka, Dominique Olombi-Mungapangi, Radio Okapi.
Et justement, à propos de ce projet, certains experts en environnement confirment que le détournement des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad risque d'avoir des conséquences sur l'environnement en RDC. Interrogé hier par Radio Okapi ici à Kinshasa, Jean de Dieu Miningo, professeur à l'Université de Kinshasa, expert sur des questions environnementales, parle par exemple de la baisse du débit du fleuve Congo. Il est joint ici par Paul Matendo.
Il ne faut pas seulement se soucier du bassin qui devrait recevoir de l'eau, c'est-à-dire le lac Tchad, mais il faut aussi, à un moment donné, et avant d'envisager cette action, réfléchir sur ce que deviendra réellement les bassins donneurs, c'est-à-dire la rivière Oubangui. Il y a une démarche à suivre dans tout ça.
Concrètement, quelles peuvent être les conséquences sur l'écosystème?
Les conséquences sur le plan environnemental seront énormes. L'Oubangui fait partie du bassin du Congo, donc si nous prélevons près de 100 milliards d'eau au niveau de la rivière Oubangui, sachez que c'est tout l'écosystème du bassin du Congo qui sera en péril. Vous avez d'abord une réduction d'eau, ce qui va entraîner la réduction de l'évaporation, avec comme conséquence la réduction des précipitations. Et il faut s'attendre à ce que l'agriculture congolaise sera complètement attaquée. Et vous savez qu'il y a des infrastructures importantes qui ont été réalisées en aval. Vous avez le barrage hydroélectrique d'Inga. Pendant la saison sèche, tout le monde le sait, que les turbines ne tournent pas normalement. Donc, pas seulement les barrages qui existent, mais il faut dire adieu au barrage d'Inga 3 et au barrage d'Inga 4.
Direction Lubumbashi, les opérateurs économiques et transporteurs disent être victimes de tracasseries de la part de la brigade antifraude du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Ils accusent les agents de cette brigade implantés au niveau du poste de péage de Kimbembe sur la route Likasi, une vingtaine de kilomètres de Lubumbashi, de les rançonner. Et c'est notamment ce dernier cas intervenu vendredi. Le chauffeur d'un camion transportant de la marchandise en provenance de Lubumbashi vers Likasi a été arrêté pour absence d'un document dénommé déclaration d'après ses sources. L'homme a été tabassé puis menotté par ses agents et le camion saisi pendant quelques heures avant d'être relâché. Témoignage du convoyeur du camion, joint par Paulin Munanga.
Au niveau du poste de péage de Kimbembe, les agents de la brigade antifraude du gouvernorat du Haut-Katanga nous tracassent sérieusement. Ils exigent la déclaration pour toute marchandise qui passe par là. Un commerçant achète sa marchandise. Nous, nous sommes des transporteurs. Nous prenons sa marchandise à partir de Lubumbashi à destination de Likasi au Kolwezi. Par exemple, aujourd'hui, nous transportons des ballots, des friperies et des mousses. Est-ce que c'est normal pour cette nature des marchandises que nous avons transportées à partir de Lubumbashi qu'on nous exige une déclaration? Et pourtant, le commerçant a déjà fait la déclaration de sa marchandise depuis la douane. Et au niveau de Lubumbashi, l'opérateur économique commence à écouler sa marchandise. Mon chauffeur est arrêté. Ils l'ont menotté puis tabassé comme un voleur. Et parfois, lorsque vous leur exhibez tous les documents, ils vous exigent les perdièmes. Nous demandons au gouvernement de se pencher sur ces dossiers parce que la tracasserie exagère.
Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur du Haut-Katanga dont dépend ce service. Bonne nouvelle pour les élèves et leurs parents dans les territoires de Nyunsu, province du Tanganyika. Les enseignants en grève depuis le 21 janvier dernier et viennent de mettre fin à leur mouvement. Impayés depuis 4 mois, ils viennent finalement de toucher leur salaire. La banque qui avait avancé le motif d'insécurité pour ne pas déployer ses agents payeurs s'est finalement résolue à le faire. Expédie Mambamoubi nous en dit plus.
L'information est donnée à Radio Okapi par le délégué principal de l'intersyndicale. Dès ce lundi, indique-t-il, les cours reprennent dans les écoles primaires et secondaires à Nyunzu. Les enseignements avaient été suspendus depuis le 21 janvier dernier pour protester contre le non-paiement des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2017, auxquels se sont ajoutés le mois de janvier et février 2018. La banque par où transite leur salaire disait ne pas avoir de garantie de sécurité. Le gouvernement provincial a donc donné des assurances. Les enseignants ont été payés ce week-end. Les cours reprennent donc ce lundi 12 mars. La question que tout le monde se pose toutefois est celle de savoir comment les enseignants vont résorber ce retard de cours de près de 2 mois. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
En Guinée, c'est une semaine à risque qui vient de commencer. Les autorités de ce pays qui font déjà face à plusieurs grèves et mouvements de contestation, notamment du côté des enseignants, devront encore subir la série de manifestations prévues toute cette semaine par l'opposition politique. C'est entre autres cette journée ville morte annoncée pour aujourd'hui dans le pays, à Conakry plutôt, et ainsi que ses environs. Crash d'un avion privé turc en Iran, aucun survivant parmi les 11 personnes à bord de l'avion. Selon l'agence officielle iranienne, l'avion s'est écrasé hier soir dans le sud-ouest de l'Iran, dans les montagnes du Zagros, à plus de 400 km au sud de Téhéran, pour une raison encore inconnue. Selon des médias turcs, l'avion bombardier Challenger 604 transportait la fille d'un riche homme d'affaires turc et 7 de ses amis, en plus de 3 membres d'équipage. Le président burundais Pierre Nkurunziza a été élevé samedi au rang de guide suprême éternel de son parti, le CNDD-FDD. D'après nos confrères de RFI, le parti au pouvoir promet de donner des explications, la signification de cette distinction d'ici demain, mais déjà cette décision a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Au Rwanda, au moins 16 personnes ont été tuées samedi dernier dans le sud où une église des adventistes du 7e jour a été frappée par la foudre, a déclaré dimanche un responsable local. Le maire du district de Nyarugoro, Abitegeko François, a indiqué que 14 personnes étaient décédées sur le coup et 2 avaient plus tard succombé à leurs blessures. 140 autres personnes ont été blessées et envoyées d'urgence dans des hôpitaux ainsi que des centres de santé.